Alors merci d'être venus si nombreux, à vrai dire, pour la présentation d'un ouvrage qui va faire date, sans aucun doute, dans les études, notamment dans les études qui concernent la princesse de Clèves. Alors, je vais vous présenter très simplement l'auteur, Jean-Michel de la Comté, que certains d'entre vous connaissent, car il est venu il y a 2-3 ans, je crois, présenter un Ambroise Paré. On l'avait présenté d'ailleurs avec un médecin des hôpitaux de Bordeaux. C'est une rencontre intéressante. Et alors voilà, je présenterai les choses de manière assez simple pour ne pas nous égarer, parce que Jean-Michel de la Comté a publié de nombreux ouvrages dans une collection dont je vais dire un mot dans un instant, concernant la princesse de Clèves, ce qui va nous intéresser ce soir. En 1990, il publie dans une collection qui s'appelait à l'époque le texte rêve, au PUF, sous la direction de Jean-Belmain Noël, un ouvrage qui s'intitulait « La princesse de Clèves, la mère et le courtisan ». En 2012, donc vous avez le laps de temps qui s'est écoulé depuis, toujours, je ne devrais pas dire toujours, une autre princesse de Clèves, Passion, au pluriel. Alors, entre-temps, pour situer les choses, sont parus du même auteur. Je crois qu'on va se tutoyer probablement,
ouais,
parce que ça sera difficile de faire
semblant. Faisons comme si on se connaissait.
D'accord. sont parus du même auteur 6 ou 7 ouvrages, dans la collection l'un et l'autre, dirigé par Jean-Bertrand Pontalis. Mais dans cette collection, justement, les ouvrages dont je parle concernent des portraits d'écrivains et de personnalités du grand siècle, notamment le portrait d'Henriette d'Angleterre, le portrait de François II et celui de Bossuet, le plus récent. Bossuet, Langue morte.
Et Saint-Simon.
Et Saint-Simon.
Le dernier.
Mais ce que je voulais dire, c'est que dans l'ensemble de ces portraits, il y en a 3 que je viens de citer.
Oui, c'est ça, d'accord.
De ces personnages ou de ces personnalités que l'on va croiser précisément dans l'histoire de Madame de Lafayette et donc dans la princesse de Clèves. Henriette d'Angleterre, François II, bien évidemment. Et Bossuet aussi, il y a plusieurs reprises.
Tout à fait.
Alors donc, ma première question sera très simple. Cette longue traversée dont je viens de parler, que je viens d'évoquer, là, du XVIIe siècle, est-ce qu'elle était nécessaire pour entreprendre une relecture complète du roman de Madame de Lafayette au regard de ce premier ouvrage qui s'appelait L'amiral courtisan? Ou bien alors, tout simplement, et peut-être plus simplement, est-ce que la princesse était restée quelque part en souffrance dans ton âme et conscience de lecteur?
À mon tour, bonjour à tout le monde et merci de votre présence. Oui, la question du parcours, je la trouve tout à fait intéressante et importante. Parce qu'en effet, le premier livre dont parle Jérôme, c'est La mère et le courtisan. C'était dans une collection qui s'appelait Le texte rêve. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Jean Belmain Noël, mais enfin, c'était un professeur de littérature qui était très féru de psychanalyse. Et sa collection, qu'il a entamée d'ailleurs avec votre serviteur et puis aussi quelqu'un que vous connaissez, Pierre Bayard peut-être, cette collection, par définition même, était de nature largement académique, d'une part, et d'autre part, largement corsetée d'une sorte d'armature, si vous voulez, conceptuelle. Et très clairement, psychanalytique à l'époque. 20 ans plus tard, c'est un autre texte qui est sorti. Je dirais qu'il est sorti, oui, parce qu'il sort de l'œuvre, au fond. Il ne sort plus, vous voyez, il ne sort plus, enfin, ce que je viens d'écrire, ce que je viens de publier, Passion, ça ne sort plus d'une théorie, mais le texte est sorti, en quelque sorte, de l'œuvre elle-même. Alors là, par rapport à ce que tu disais, le parcours lui-même était constitué en écrivant les livres qui sont parus dans l'un et l'autre, c'est une prise en compte de la un essai de prise en compte de la littérature en tant que telle, indépendamment d'une enveloppe conceptuelle. Essayer en quelque sorte de revenir au texte. Et essayant de revenir au texte, dans le traitement des figures comme par exemple Bossuet, ou Saint-Simon, ou je sais pas, même Ambroise Paré, le médecin. Ambroise Paré, par exemple. en venir à son œuvre elle-même, mais à sa pratique même, essayer de faire, de mettre tout ça en perspective dans un livre, indépendamment d'une interprétation personnelle, etc. Vous voyez ? Redonner corps à ce qui, au fond, aspire à prendre corps, c'est-à-dire ça, pour moi, une œuvre. Et Madame de Lafayette, enfin son œuvre, La princesse de Clèves, je l'ai, au fil du temps, me dégageant de ces modalités d'interprétation, en l'occurrence analytique, ça aurait pu être autre chose, marxiste, ce qu'on voudra. Il se trouve que ce que j'ai ressenti finalement après comme une sorte de corset, m'en dégageant, essayer de laisser parler le texte. Alors vous me direz, c'est un peu la même méthode au fond, c'est-à-dire une sorte d'attention latente ou d'oreille flottante comme ça, pour voir ce que le texte a à nous dire. C'est ça qui s'est passé. Essayer de voir ce que le texte a à nous dire. Et ça a donné ce livre-là, Passion, qui me donne maintenant l'impression d'être sorti davantage de l'œuvre elle-même et surtout qui tranche assez singulièrement avec ce que j'avais écrit il y a 20 ans. Voilà. Donc c'est aussi un temps de latence, en l'occurrence, là, dans les 20 ans qui sont écoulés. C'est intéressant de voir, hein, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est intéressant de voir comment on prend une œuvre, ou avoir même des idées, et puis le changement qui s'opère en nous. Pourquoi est-ce qu'on change d'idée? Pourquoi on change de regard sur un texte, sur un film, etc. Bon, je n'ai pas d'explication, je ne vais pas aller plus loin, mais ce changement-là, cette modification-là, fait que lorsqu'un texte, et je terminerai sur ce point, par cette idée assez simple d'ailleurs, lorsqu'un texte, un livre, un texte, une œuvre plutôt, plus qu'un, pas un texte, une œuvre, lorsqu'une œuvre est forte, eh bien, elle continue naturellement à vivre, parce qu'après tout, 350 ans, il est vieux le livre de Madame de Lafayette, hein, il est ancien, hein, il y a de la poussière. Mais il s'entête dans le temps, mais il s'entête aussi dans la lecture qu'on en fait soi-même, au point que, 20 ans plus tard, on en fait une lecture tout à fait différente de ce qu'on en a fait 20 ans plus tôt. Voilà.
Bien, oui, je crois que ça correspond tout à fait à la tonalité, à la différence de tonalité. Je ne sais pas si par... pour illustrer ce que tu viens de dire, tu ne pourrais pas lire les deux, trois premiers petits paragraphes là, jusqu'à Un esprit neuf.
Si, volontiers.
Parce que ça donne le ton, si je puis dire, de la relation. Voilà, de la relation, c'est un peu ce que tu viens de dire,
oui,
la relation
absolument.
Qui s'établit entre ce texte séculaire et voilà.
Oui, parce qu'en plus, c'est ce texte, vous allez le voir tout de suite d'ailleurs, dans ce livre là, que j'ai fait, il y a un acte un peu militant. J'appelle ça au début. Le premier chapitre s'appelle, je l'intitule « Retour vers le roman ». Ça me semble éloquent, « Retour vers le roman ». Pas seulement en Madame de Lafayette, d'ailleurs, mais d'une façon plus générale, d'ailleurs. Enfin, celui-là. « La princesse de Clèves est un livre âgé. Quand on l'entame, il sent la poussière. Les premières pages nous plongent dans un milieu où les figures ornées de patronymes oubliés et de... Attendez, je vois mal. Et de titres vétustes découragent l'effort. Il reverdit aujourd'hui, mais pour avancer, il faut une certaine constance et même de la vaillance. Le début manque d'air, on étouffe, puis on s'habitue, les ombres s'éclaircissent, on poursuit et on va jusqu'au bout. Ensuite, pourvu qu'on fouille, on perçoit la complexité qui fourmille sous le déroulé de l'intrigue, une myriade de détails discrètement éloquents et moins visibles, plusieurs degrés de sens qu'encadre la mécanique d'un récit rectiligne. La vie de l'héroïne tend le fil conducteur, mais l'ensemble compose son destin. Les digressions, paraît-il, distraient du sujet central, elles ont leur raison. Le roman décline ses épisodes en parfaite cohérence, pas de surplus, aucun déchet. Lorsqu'il le découvrit, Fontenelle, philosophe en herbe, lui qui, à un mois près, vécu jusqu'à 100 ans, était novice à l'époque, il avait 21 ans. Donc Fontenelle le relut, émerveillé trois fois de suite. Donc il le lut d'une même foulée, quatre fois en tout. C'était un esprit neuf. Alors là, je lis encore quelques lignes simplement pour éclairer le propos. Enfin, ça, c'est pas dans le livre, c'est moi qui viens de le dire. Je devais revenir vers ce livre. Ce retour relève du hasard, mais plus encore d'une exigence morale. Prisonnier volontaire, je n'ai d'ailleurs jamais cessé d'y revenir. En mon adolescence, il y a longtemps, au lycée. L'ayant lu pour la première fois, j'en fus saisi, comme tous les adolescents mériteraient de l'être. Ils ne le sont plus à présent ou trop peu. L'enseignement de la littérature s'est largement dépouillé de sa mission. Donner accès aux œuvres, en favoriser le goût. Autrefois, les professeurs de lettres visaient à la délectation des mots, tentaient de faire vibrer la langue. Ils se penchaient sur les personnages, leur prêtaient une réalité. Ils glosaient selon leur talent, glanaient ce qu'ils pouvaient, paraphrasaient à l'occasion, ce qui n'avait aucune importance. L'essentiel consistait à s'enfoncer dans le texte en le commentant ligne à ligne. Pas de théorie blindée, mais du jugement, avec de l'ardeur. Les élèves, impressionnés par la richesse des récits et des styles, voyageaient au-delà d'eux-mêmes. Ils quittaient le langage quotidien pour des lectures qui les grandissaient. L'imagination les emportait vers des terres inconnues. Ce qu'ils lisaient leur appartenait. Ils conservaient ce trésor en eux, même à leur insu. C'était une aventure. Les dépayser, affiner leur langage, leur transmettre un legs ancestral, les hisser vers le meilleur d'eux-mêmes, voilà quel était le but. Temps révolu, le principe d'utilité, cette sécheresse, prévaut désormais. Le crin de l'analyse arrache la peau, le froid de sa lame tranche les nerfs, son pilon broie les muscles. Assassiner les pages vivantes, on a transformé les professeurs de lettres en médecins légistes. Honneur aux récalcitrants qui s'obstinent, ils sont les gardiens de la flamme. Voilà l'esprit dans lequel aussi j'ai écrit donc cet ouvrage.
Bon, alors, après ce texte d'ouverture militante, on peut
voilà,
dire.
Voilà, exactement.
Je retiens, voilà, déjà il y a des réactions, on pourra revenir là-dessus. Moi, je retiens donc cette une lecture incarnée, enfin une relecture de lecture incarnée. Et comme il était question de délectation des mots à l'époque, peut-être un peu idéalisé où nous étions sur les bancs des lycées, mais enfin, délectation des mots. Moi, je propose maintenant qu'on procède par un petit abécédaire, parce que ça me semble, ça évitera de... Ça donnera des repères, je crois, assez simple. Alors, parce que ce livre est composé par chapitres, hein, finalement très simple et apparemment très simple. Hein, par exemple, retour vers le roman, bon, ça, c'est l'ouverture. Ah oui. Ensuite, une très jolie jeune fille, scène de cour, le couple originaire, les parents, l'amour authentique, les femmes, le mari et l'amant, le bonheur conjugal, épouser monsieur de Nemours, les hommes, adieu, lui dit-elle. Voilà, autant d'entrées. Voilà. Alors, au gré de ces chapitres, il y a quand même un certain nombre de mots qui des mots qui cristallisent en fait la réflexion et qui sont finalement récurrents, qui déclinent moi ce que j'appellerais des motifs existentiels en fait. Alors le premier mot, bien sûr, c'est celui qui est affiché dans le titre, c'est le mot passion au pluriel. Dans Philippe Sellier, on trouve dans une autre préface, parce que Jean-Michel Delaconté, tu viens accompagner une longue lignée de commentateurs illustres. Ouais. Donc il y a Philippe Sellier qui rappelle. Je ne sais pas ce qui rappelle que le sens étymologique, comme chacun sait, c'est tout simplement souffrance. Souffrance, pour Philippe Sellier. Hein. Et que ce serait dans ce sens que... Donc, point de bonheur passionnel dans l'histoire de Mademoiselle de Chartres, devenue Madame de Clèves. Moi, je m'arrêterai, peut-être pour te permettre de développer ce que tu mets dans passion, l'épigraphe de ce livre, épigraphe tout à fait surprenante, enfin, très intéressante, je crois, d'un philosophe allemand qui s'appelle Peter Sloterdijk, Dick, D-I-J-K, qui est la suivante, hein, c'est l'épigraphe ici, « Les êtres ne naissent pas seulement, ils viennent au monde. » Ils viennent au monde. Et moi, j'ai lu ce livre que j'ai lu dans l'histoire de Madame de la Princesse de Clèves, peut-être que la décline, que les passions ne sont pas simplement d'ordre psychologique et qui donneraient lieu à un simple roman d'analyse, qui est l'image assez classique, académique du terme, un roman d'analyse, et c'est le grand chef-d'œuvre français donc, que tout le monde doit célébrer. Bien, c'est une lecture qui a été très longtemps dominante, celle contre laquelle s'élevait déjà Michel Buteur. Hein. Ouais. D'accord. Mais que ces passions, justement, s'incarnent dans le monde, sur la scène du monde. Hein. Et en l'occurrence, ce monde, c'est la société de cour où ces passions vont prendre une couleur quasi crépusculaire. Hein. Mmh. C'est ce qui me semble.
Hein. Oui, bien sûr.
Donc, et l'une parmi ces passions qu'on ne s'attend pas à trouver à ce point présente, c'est la haine. Donc, il y en a bien d'autres, sans doute. Hein. Voilà. Donc, dans Passion, Passion sur la scène du monde. Et puis, je dirais encore autre chose, c'est que, au lieu de faire de La Princesse de Clèves simplement roman d'analyse, au contraire, c'est un roman où toute la société vient se mirer, en quelque sorte. Enfin, bon, je vais peut-être trop parler.
Non, pas du tout, pas du tout. Non. On peut continuer.
Bon, mais Passion, pourquoi ce titre? Enfin, pourquoi ce titre? On le comprend en lisant, mais Passion en rouge, en plus, donc c'est Passion, la cruauté, tout ce qu'on peut décliner.
Passion au pluriel, en effet.
Au pluriel.
Ouais. J'aurais tendance à mettre en avant, vous voyez, c'est... Bon, on partira, si vous voulez bien, du fait que l'héroïne va avoir 16 ans. C'est une toute jeune fille. C'est une toute jeune fille. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est une adolescente. Premier point. Le deuxième point, ce que je veux dire, je vous l'annonce comme ça, le lien que je noue, en quelque sorte, c'est entre ce statut ou cette situation, cette condition existentielle de l'adolescente et le fait que cette entrée à la cour, c'est-à-dire cette entrée dans le monde... Pas seulement le grand monde, mais dans le monde, cette naissance au monde, elle est marquée effectivement par les passions, dans ce que les passions ont de douloureux. Parce que c'est un livre, La Princesse de Clèves, c'est un livre douloureux, extrêmement douloureux. C'est un livre de douleur, au fond, pas seulement de douleur, mais très largement de douleur. Pas seulement parce qu'il y a des gens qui meurent, la mère, Madame de Chartres, l'époux, le prince de Clèves, il y en a d'autres qui meurent d'ailleurs. Hein. Mais c'est parce que là, il ne faut jamais perdre. Enfin, l'héroïne elle-même, elle sort de l'enfance très clairement, géographiquement, pour aller à la cour. On le souligne assez peu, ça. Il y en a un qui t'a peut-être connu, qui s'appelait Silver Letringer, qui avait, dans un superbe article, qui avait souligné ça, dans des temps antédiluviens, il y a au moins 20 ans, du temps où la littérature et l'analyse littéraire se portaient très vaillamment. Très fortement. Cette idée-là, c'est-à-dire que l'héroïne, très exactement, elle vient d'ailleurs. Elle sort de quelque chose pour aller ailleurs. Et cet ailleurs, ce quelque chose, c'est l'enfance, où elle a été éduquée, hein, puisque son père est mort et elle a été éduquée par sa mère. Et elle vient donc à la cour, elle entre dans le monde, d'où d'ailleurs l'épigraphe de Sutter Dick, à savoir, c'est une naissance, pas seulement d'ailleurs au fond, ce que j'avais en tête, c'est pas seulement le fait que ce soit une adolescente qui accède à l'âge adulte, parce que c'est ça quand même la question. Après tout, regardez. Mais ce que je veux dire aussi, c'est peut-être aussi au fond, qui sort de l'utérus maternel, mais là, bon, c'est un petit peu à la mode aujourd'hui. Donc, je passe préfère très simplement. Hein, c'est un roman d'éducation, un roman d'apprentissage, comme ça. Et, Et elle sort de l'enfance et elle accède. Et elle accède de quelle manière? Parce qu'il y a deux questions que je me suis posées au départ et qu'on devrait se poser toujours quand on a une œuvre de ce genre. La première, c'est. Qui se rejoignent d'ailleurs au fond. Enfin. Pour ce roman en particulier-là. Pourquoi ce roman a-t-il traversé à ce point les âges? Évidemment, on peut donner des explications sociologiques, c'est vrai. Hein, mais pourquoi il a travaillé à ce point les âges? Et deuxièmement, ce roman, dans ce roman lui-même, pourquoi y a-t-il cette fin? Pourquoi le refus du bonheur? Alors on peut faire, je le sais bien, on peut faire, et à juste titre, une analyse religieuse, voire janséniste, ou en tout cas augustinienne. Je ne rentre pas dans les détails. On peut faire ça. Le refus du monde, etc. On sait bien au XVIIe ce que ça signifie. Bon. Mais si c'était seulement lié au XVIIe, ça ne nous toucherait pas nécessairement aujourd'hui. Or, ce refus du monde, ce refus de vivre, moi je l'ai interprété, mais je sais bien que c'est discutable, hein, mais moi je l'ai interprété d'un point de vue, comme tu disais, existentiel, à savoir, pour la princesse de Clèves, selon moi, comme pour un certain nombre d'adolescents, le monde est invivable. Le monde est invivable. La vie est invivable. Vous voyez, on sort complètement, en l'occurrence, de la question de l'histoire d'amour. On ne peut pas aimer. Vous voyez, l'interprétation qui tient la route, d'ailleurs, par ailleurs. Hein, mais à savoir, bon, c'est l'amour tel qu'on l'entendait. Vous savez, comment il s'appelle, celui qui parle de l'amour impossible.
Pas Denis de Rougemont.
Oui, Denis Rougemont, voilà, oui. C'est ça.
Qui est cité parfois.
Non, c'est ça, je l'avais cité, oui. Ouais. Bon, c'est beau, je veux dire, c'est une belle interprétation, l'amour impossible, l'amour... Bon. Ça peut être ça. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est plus puissant que ça dans ce livre. Je pense qu'il y a d'autres choses qui sont puissantes également. Mais c'est cet aspect-là, c'est-à-dire la vie est invivable. Vous me direz, c'est très simple. Ben oui, c'est très simple. La vie est invivable. Je dirais même sous cet angle, selon moi, c'est la simplicité même de cette solution, de cette lecture. Après qu'on décline de 36 façons, hein, attention, hein. C'est compliqué ce livre. Mais la trame, le fil rouge, la simplicité même de ce fil rouge, qui, à mes yeux en tout cas, contribue très puissamment à cette perpétuation, à la perpétuation de l'intérêt qu'on porte, qu'on continue de porter, et pas seulement en France. Je dis, je sais plus où, et puis je suis pas le seul. Moi, je l'ai enseigné au Japon, c'est pas la porte à côté, à des étudiants, hein, à Kyoto, et à des années de ça. Et ben, il y a le procès de Clèves, Jansénus, les Augustiniens, tout ça, c'était pas exactement leur tasse de thé à ces jeunes gens. Ben, n'empêche que le roman lui-même les émouvait, les prenait, et je pense que dans bien des pays du monde, c'est la même chose. D'ailleurs, j'en ai même la preuve, je vous passe les... C'est un livre à l'étranger aussi, ce roman touche. Donc il faut trouver une raison. Alors, moi, quand je dis c'est le fil rouge, c'est celle que je donne, parce que je crois que c'est effectivement la sortie de l'enfance, l'essai, la tentative d'accéder au monde, et puis finalement la vie est impossible, que c'est ça qui... Après, ça prend la forme romanesque que ça prend. Mais que c'est ça, je ne dis pas seulement ça, parce que je pense qu'il y a autre chose, mais qu'il y a ça en particulier comme socle, si vous voulez, comme fil central, pour donner cette force motrice à ce roman, cet intérêt qu'il continue de posséder, je pense que c'est important d'arriver, selon moi en tout cas, à ce qui fait la simplicité des souches, du socle, du moteur de départ, c'est ça. Alors après, on peut discuter, mais la réponse que je donne, c'est celle-là, existentielle.
Bon,
voilà.
Alors, on va peut-être approfondir cette question des passions, parce que c'est là-dessus, moi je voudrais quand même...
Bien sûr, volontiers.
Alors, puisque cette jeune fille... Je reprends le fil du raisonnement. Le monde est invivable. Et j'avais fait allusion quand même à une passion qui moi, me frappe en relisant. Parce que l'intérêt de lire un livre qui vient de sortir, une lecture de la Princesse de Clèves, c'est que ça invite à relire soi-même.
Tout à fait.
Et c'est vrai que c'est une... Je dirais pas que c'est une épreuve. Mais enfin, oui, il faut accepter que ce soit une épreuve douloureuse, hein, en dehors de la complexité narrative. Alors, cette passion qu'est la haine et qui se manifeste partout aux yeux de la jeune adolescente, qui est la princesse, enfin, qui va devenir la princesse, est-ce que ça ne pourrait pas être l'une des raisons qui lui fait porter un jugement complètement définitif sur le monde, ce monde où règnent les haines et les jalousies, de telle sorte qu'aucune place... Mmh. Alors, je vais dire simplement, mais on pourra en trouver de multiples passages. C'est dans le premier récit intercalé à propos de Diane de Poitiers.
Hein,
bon, je lis le passage.
Oui, vas-y.
C'est quand même frappant. Je lui ai ouï dire plusieurs fois qu'elle était née. Il s'agit de la princesse de
C'est Madame de Chartres. Hein,
de Valentinois. Oui, c'est Madame de Chartres qui raconte
à sa fille,
qui raconte à sa fille l'histoire de Diane de Poitiers,
la maîtresse d'Henri II, qui pourrait être sa mère.
Voilà, hein, qui pourrait être sa mère.
Et d'abord François Ier, ensuite du fils. Ça se passait en famille, tout ça.
Voilà.
Tout
oui, fait. Oui. Ouais, fait. Voilà. Je lui ai ouï dire plusieurs fois qu'elle était née le jour que Diane de Poitiers avait été mariée. Première vacherie, bien. La haine le lui faisait dire, et non pas la vérité. Car je suis bien trompé si la duchesse de Valentinois n'épousa Monsieur de Brézé, grand sénéchal de Normandie, dans le même temps que le roi devint amoureux de Madame d'Étampes. Jamais il n'y a eu une si grande haine que l'a été celle de ces deux femmes. La duchesse de Valentinois ne pouvait pardonner à Madame d'Étampes de lui avoir ôté le titre de maîtresse du roi. Madame d'Étampes avait une jalousie violente contre Madame de Valentinois parce que le roi conservait un commerce avec elle, etc., etc. Et on pourrait trouver dans toutes les histoires cette haine farouche. Me reviendra ensuite sur cette... Voilà.
Oui, tout à fait.
Le statut sous la plume de Madame de Lafayette. Donc,
oui, tout à fait.
Qui ne tourne pas autour des choses, qui appelle haine la haine.
Mais absolument. Et puis d'ailleurs, si vous vous souvenez du roman, lorsque, vers la fin du roman, enfin, dans la troisième partie du roman, lorsque Henri II meurt au tournoi, vous vous souvenez, ouais, d'un éclat de lance dans l'œil, eh bien, c'est Catherine de Médicis qui prend le pouvoir, même si normalement c'est son fils François II, mais c'est elle qui détient la réalité du pouvoir, et ça se manifeste, et c'est très clair dans le roman, hein. Elle chasse Diane de Poitiers,
oui.
Alors que dans la réalité, ça ne s'est même pas passé comme ça. Mais le roman, lui, Madame de Lafayette, donne ce détail, si je puis dire, cette version, plutôt.
Hein. Oui, oui.
Catherine de Médicis chasse, elle est Et Catherine de Médicis, elle fait pire que ça, si vous vous souvenez.
Dans le roman.
Dans le roman. Oui, oui. Elle, lorsque le vidame de Chartres, c'est-à-dire l'oncle de la princesse, elle apprend que, enfin, qu'il était amoureux d'elle, apparemment, croyait-elle, elle, Catherine de Médicis, hein, du temps d'Henri II. Lorsqu'elle apprend, lorsqu'elle se rend compte qu'elle a été dupée par le vidame, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, à la conjuration d'Amboise, ça se passe en 60, enfin 1561, enfin, je ne vais pas passer les détails, mais enfin, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le fait tuer. Hein, c'est annoncé, c'est anticipé dans le roman. Mais enfin, c'est une haine qui va jusqu'au meurtre, la mise à mort. Hein. Oui, à l'époque, oui, bien sûr. Oui, c'était courant. Mais je veux dire, c'est très prégnant hein, dans le roman. Et c'est d'autant plus prégnant que le vidame de Chartres, c'est l'oncle de l'héroïne. Alors évidemment, l'héroïne, lorsqu'elle... Comme les temps sont troublés, enfin, pas seulement les temps de l'époque, mais le temps hein, du roman est troublé, on ne sait pas exactement quand ça se passe, mais enfin, entre le retrait de la princesse et la mort de son oncle, ou du moins la mise à mort de son oncle, la condamnation de son oncle, évidemment, ce n'est pas dit dans le roman. Mais enfin, ça se déduit. Tout ça, c'est quand même dans la même temporalité. Et donc, il y a un lien, de ce point de vue-là, entre la haine, effectivement, puis la mort, plus généralement, et puis le retrait lui-même. Mais c'est d'une façon quasiment filigrane. Hein. Mais la haine, cela étant, est explicitement posée, bien sûr. Elle est présente.
Tu as abordé toi-même tout à l'heure la question du religieux, non pas en l'évacuant, mais en disant, à ses justes titres, que finalement, si le roman traverse les siècles, c'est qu'on peut faire abstraction du contexte janséniste. Et... D'ailleurs, dont il est assez peu question dans le roman lui-même, de manière explicite.
Dieu n'est présent qu'à deux ou trois occasions.
Voilà. Oui. Mais néanmoins, tu utilises l'expression... Ça mérite un commentaire quand même. C'est page 51. Puisque le roman, je vais lire le passage, puis considérant sa rencontre avec M. de Clèves, Valincourt, c'est un critique de l'époque, l'un des premiers critiques, c'est un grand critique. Oui. Valincourt l'aurait préféré dans une église plutôt que dans la maison du marchand. C'est de la scène des pierreries, hein, chez le joaillier, d'accord.
Où elle rencontre le prince de Clèves.
S'il a sans doute raison sur ce premier point, il a raison sur le second, il a tort sur le second, puisque le roman, tout religieux qu'il soit dans son fond, tout religieux qui soit dans son fond, s'évertue à bannir les références religieuses. D'accord, il n'y a pas de référence religieuse, mais que signifie tout religieux qui soit dans son fond? Bon, il y a plusieurs types de réponses, je ne vais pas anticiper, mais... pas anticiper, mais moi j'ai un petit peu mon point de vue. Mais bon.
Ah bah tu veux...
Non, mais un élément par exemple, est-ce que ça suffirait de répondre, comme fait Philippe Sellier, de dire que par exemple on trouve de manière récurrente des examens de conscience, c'est-à-dire des ralentis réflexifs?
Ah, oui.
Est-ce que c'est une réponse suffisante? Mais je crois que tu veux dire autre chose.
Oui, parce que...
Tout religieux qu'il soit en son fond.
Oui, parce que je pensais pas spécifiquement à ça, quoique l'argument de Sellier soit fort. Ce à quoi je songeais, c'est... d'abord, il est religieux en son fond, parce que très concrètement, d'abord, la princesse de Clèves, comme vous le savez, elle se retire dans la maison qu'elle a dans les Pyrénées, mais aussi dans une maison religieuse. Oui. Donc, c'est présent. Oui. Le roman dit explicitement que sa mère, Madame de Chartres, est pieuse. Enfin, elle a de la piété.
Oui, c'est vrai. Hein,
donc, il y a la piété de la mère. Mmh. Mais alors, les deux seuls personnages dans ce roman qui ont un rapport religieux, c'est-à-dire de piété, c'est Madame de Chartres, piété réellement, et la princesse qui sort du monde dans lequel elle est entrée, hein, qui en sort pour aller dans une maison religieuse et dans sa maison des Pyrénées. Alors, sortir de ce monde pour aller quand même... pas exactement vers Dieu, mais pour sortir de ce monde. Parce qu'il y est rentré, mais elle en sort. Hein ? Alors la mère, Madame de Chartres, elle en sort de la manière la plus radicale qui soit, puisqu'elle meurt. La princesse, elle en sort par un mouvement volontaire, comme vous le savez. La question, c'est la suivante. C'est que dans ce roman, on s'aperçoit que c'est un monde complètement clos. Hein ? C'est un huis clos. Les présages se réalisent. C'est un monde... Il y a une vraie mécanique comme ça, céleste, mais pas seulement céleste. Hein ? Les astres semblent avoir tout pouvoir. Aucune liberté. Alors c'est aussi l'exercice de liberté de la part de la princesse. On peut se poser la question de savoir si refuser l'amour, c'est un acte de liberté, je ne sais pas. Mais enfin, en tout cas, hein, il y a ce monde huis clos, comme ça, la toute-puissance des astres. Eh bien, cette toute-puissance des astres, ce monde qui, du même coup, est rabattu comme une cave aux voûtes imperméables, en quelque sorte, inflexibles, hein, elle sort, l'héroïne, de ça, mais pour aller précisément vers une ouverture... qui a quand même une connotation religieuse, par définition même. Alors après, est-ce que c'est janséniste, est-ce que c'est ceci, je ne sais pas. En tout cas, c'est une sortie hors du monde vers quelque part.
Alors, bon, Justement, puisque vous, de quelqu'un dans le public, propose une interprétation, pourquoi pas. Donc, effectivement, à ce moment-là, on peut s'interroger sur la relation et la relation mère-fille. Et est-ce qu'effectivement, cette princesse est à ce point déterminée, ça c'est une explication traditionnelle, à ce point déterminée par les dernières paroles de sa mère, est-ce qui ferait qu'elle n'a pas d'autre choix que de se retirer hors du monde? Bon, voilà, je prends de la matière, parce que c'est loin d'être facile à trancher, cette
affaire, mais
moi, je pense.
Regardez, elle n'est pas obligée d'aller dans une maison religieuse. Elle a une maison, c'est le texte qui le dit, hein, c'est pas moi. Elle a une maison près des Pyrénées. Elle a une maison à Coulommiers, même. Elle peut très bien y aller, hein, personne ne l'empêche. Ce qui est intéressant, c'est que le texte, enfin, Madame Lafayette, en l'occurrence, est cru nécessaire, est jugé nécessaire, de dire qu'il y a le monde profane, la maison dans les Pyrénées, et puis le monde sacré, en tout cas, cet autre monde, vous voyez. Elle est doublement hors de la cour. Bon, mais c'est la question de... Enfin, bref. Hein, alors maintenant, sur la question...
De la mort de la mère.
De la mère de la mort. De la mère de la mort. De la mort de la mère.
Peut-être la mort.
Et c'est peut-être aussi, vous savez,
la mère
de la mort aussi, peut-être.
Oui, oui.
Hein, il y a peut-être de ça.
Qui pèserait comme une sorte de...
Et puis la parole, de la mère, et la parole du prince lui-même, hein, sur son lit de mort,
il
lui dit qu'il espère bien, au fond, il lui fait comprendre qu'il espère bien, qu'en mourant, qu'elle n'épousera pas Nemours, au fond. Ah, bon. Double parole à l'agonie, de la mère d'une part et de l'époux en train de mourir d'autre part. Sur la mère, donc. Bien sûr que la parole de la mère qui dit, elle ne dit pas à sa fille... elle sait pas. Au moment où elle meurt, Madame de Chartres, la princesse n'a pas encore succombé. Enfin, elle est amoureuse de Nemours, hein, mais c'est le prince qui n'a pas succombé, et donc elle-même n'est pas encore libre d'épouser Nemours pour autant qu'elle veuille l'épouser. On verra que c'est pas le cas. Non, il n'y a pas de liberté là. Hein. Mais la parole elle-même, la parole. N'oubliez pas quand même qu'il y a quand même. Il faut pas quand même. Oui, c'est ça. Dans ce... N'oublions pas une chose, c'est que même ces paroles sur le lit de mort. Qui, bien évidemment, sont particulièrement impératives, impérieuses, comme ça. Eh bien, lorsque tout à la fin, si vous vous souvenez, lors du deuxième aveu, si je puis dire, c'est-à-dire l'aveu d'amour, il lui dit, mais c'est un fantôme de devoir. Il lui dit ça, Nemours, parce qu'elle dit, mais lorsque le prince de Clèves est mort... Il m'a fait, il parle ça exactement. Il m'a fait jurer au fond, hein, de ne pas. Et il dit, et il y a aussi l'image de la mère derrière, enfin du prince. Oh, mais j'en ai ras-le-bol.
Non,
voilà, c'est
aller.
Bon. Elle est vraiment insistante, cette dame. Et donc Nemours dit, mais fantôme de devoir. Et on peut entendre devoir de fantôme. Je veux dire, vous voyez, il y a cette présence fantomatique et de la mère mourante et de ses paroles. Et du prince mourant de ses paroles. Le texte, ce que je veux dire, c'est que le texte a parfaitement conscience, si je dis le texte, Madame de Lafayette écrivant ce roman, bien sûr, le roman a parfaitement conscience de cette imposition de la parole mourante, naturellement. Alors on peut dire, oui, c'est la parole de la mère qui... Oui, mais en même temps, il n'y a pas d'obligation.
Elle ne cesse pas de dénigrer l'humour.
Oui, alors ça c'est tout à fait clair. Mais la parole... La parole de celle ou de celui qui meurt dans ce roman, il y a encore une échappatoire possible. Et la princesse dit même, mais il y a des moments, elle n'arrive pas à comprendre comment elle peut être malheureuse en épousant Nemours. Et Nemours lui dit, mais enfin, vous allez obéir à un fantôme de devoir ou un devoir de fantôme. Elle dit, oui, je le sais.
Oui,
elle dit ça.
On peut avoir le passage sous les yeux, hein, songez
si
ce que
lire.
Vous devez.
Ben là, vas-y, vas-y.
Vous ne la connaissez que trop. Je vais reprendre là. Songez à ce que vous devez à votre mari. Vous êtes au bord du précipice.
Voilà. Madame de Chartres dit ça à sa fille, hein, ouais. Mourante. Pas la fille, Madame de Chartres.
Le péril où je vous laisse et le besoin que vous avez de moi augmente, le déplaisir que j'ai de vous quitter. Vous avez de l'inclination pour Monsieur de Nemours. Je ne vous demande point de me l'avouer. Je ne suis plus en état de me servir de votre sincérité pour vous conduire. C'est une langue magnifique aussi. Bon, il y a déjà longtemps que je me suis aperçu de cette inclination, mais je ne vous en ai pas voulu parler d'abord, de peur de vous en faire apercevoir vous-même. Vous ne la connaissez que trop présentement. Vous êtes sur le bord du précipice.
Voilà.
Il faut de grands efforts et de grandes violences pour vous retenir. Songez ce que vous devez à votre mari. Songez ce que vous devez à vous-même. À vous-même.
À vous-même, oui.
À vous-même.
Bien sûr.
et pensez que vous allez perdre cette réputation que vous vous êtes acquise et que je vous ai tant souhaitée. Ayez de la force et du courage, ma fille, retirez-vous de la cour, obligez votre mari de vous emmener. Donc tout n'est pas perdu. Ne craignez point de prendre des parties trop rudes et trop difficiles, quelque affreux qu'ils vous paraissent d'abord, ils seront plus doux dans les suites que les malheurs d'une galanterie. Ils seront plus doux dans les suites que les malheurs d'une galanterie. Si d'autres raisons que celles de la vertu de votre devoir vous pouvaient obliger à ce que je souhaite, je vous dirais que si quelque chose était capable de troubler le bonheur que j'espère en sortant de ce monde, ce serait de vous voir tomber comme les autres femmes. Mais si ce malheur vous doit arriver, je reçois la mort avec joie pour n'en être pas le témoin.
Voilà.
On peut terminer sur ce passage, là, jusqu'à...
Regarde, je veux bien terminer sur la fin.
Ah bah vas-y, vas-y.
Si vous voulez bien.
Oui, bah,
les dernières lignes.
Tu choisis, oui.
Hein, simplement les dernières lignes, si vous voulez bien. Et c'est pour ça, je parlais justement, comme on vient de parler là de ceux qui se décrochent comme ça. Hein, c'est la dernière page. Avec l'arrachement de l'amour vrai, décrochage ou arrachement, quoi. Avec l'arrachement de l'amour vrai, la fidélité conjugale, à titre posthume, ressemble à la fusion maternelle. Quand M. de Nemours, ultime tentative, va frapper à la porte de la maison religieuse, où elle est, la princesse, elle lui fait répondre qu'ayant, je cite, trouver que son devoir et son repos, on rejoint l'idée du repos, c'est vrai, hein, que son devoir et son repos s'opposaient au penchant qu'elle avait d'être à lui, les autres choses du monde, discours religieux, hein, les autres choses du monde, lui avaient paru si indifférentes qu'elle y avait renoncé pour jamais, qu'elle ne pensait plus qu'à celle de l'autre vie. Et donc j'ajoute, la vie d'après s'apparente à la vie d'avant, lorsqu'elle était... Hein, avant, non, lorsqu'elle était avec sa mère, toutes les deux. Hein. La vie d'après, donc, entre le couvent et la maison dans les Pyrénées, la vie d'après s'apparente à la vie d'avant, paradis retrouvé. Plus d'agitation, de fautes, de troubles, de désirs. Bien sûr, ce n'est pas la vie, mais le repos des gisants. C'est le temps immobile où la santé alanguit jusqu'à devenir diaphane, les lumières faiblissent peu à peu. Les jours et les nuits s'épuisent dans une humeur égale qu'aucun événement ne réjouit ou n'attriste. Plus d'émotions, d'attentes, d'avenir, plus d'inquiétude ni d'espoir. Les heures s'évaporent dans des lieux qui se répètent. Austérité des couvents où elle se livre aux occupations les plus saintes, et sa vie qui fut assez courte, laissa des exemples de vertu inimitables. Sainteté du renoncement, paix du vide. Tout paraît s'achever dans le secret des ombres. Mais tout ne s'achève pas. À travers les exemples de vertu, quelque chose d'inaltérable demeure, un trésor supérieur à la passion heureuse qu'elle n'aura pas connue, c'est, immaculée, la réputation où se réalise le souhait de sa mère, Madame de Chartres et Madame de Clèves réunies dans l'éclat de leur nom à jamais parfait. Voilà.
Voilà.
Merci à vous, merci à Jérôme.